Deutsche Welle. Droits et libertés.
Le Mali est le troisième producteur d'or du continent africain après l'Afrique du Sud et le Ghana. En 2012, les exportations d'or représentaient 70% de l'économie malienne. Et pourtant, les conditions de vie des travailleurs sur et autour des sites d'exploitation restent déplorables. Cette semaine, nous nous entretenons avec Sangaré Tiémoko Souleymane de la Fondation pour le développement du Sahel au Mali, des problèmes éthiques et environnementaux que l'exploitation aurifère pose à son pays. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Il existe 9 grands sites miniers pour l'or au Mali. L'État malien en est actionnaire, mais minoritaire. Les véritables promoteurs des gisements sont des multinationales. Et les retombées sur les populations des zones minières ne sont pas toujours positives. Nous en parlons avec Sangaré Tiémoko Souleymane de l'ONG malienne Fondation pour le développement du Sahel, qui connaît bien le paradoxe des pays riches en ressources naturelles, mais dont les populations ne retirent guère davantage du fait de contrats et conventions souvent déséquilibré entre l'État et les entreprises extractives. À Bougouni, par exemple, d'où est originaire Sangaré Tiémoko Souleymane, dans la mine de Morila Essa, le promoteur avait réclamé d'être exonéré de taxes et d'impôts pour poursuivre ses activités.
Ces sociétés qui viennent avec les gros investissements, comme ils disent, demandent un certain nombre d'années d'exonération. Et ces exonérations vont de 3 à 5 ans. Sans taxes ni rien, et avec des avantages d'importer beaucoup de choses en TVA. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, l'État, il est perdant au niveau des recettes. Mais il faut reconnaître qu'il y a une certaine fiscalité minière qui régit ces différentes sociétés. Cette fiscalité minière aussi, quand on le voit dans son ensemble, et la part de l'État dans ces sociétés, est toujours défavorable parce que l'État est actionnaire maximum à 20%. Ce sont des cotes qui ne sont pas équitables. Nous, comme acteurs de la société civile, on le dénonce et nous sommes dans la nouvelle relecture de cotes pour qu'il y ait au moins plus d'équité.
On a parlé là des mines industrielles, il y a aussi des mines artisanales au Mali.
Ouais. Mmh.
Dans ces deux cas de figure, quels sont les profits qu'en retire la population réellement ou les communautés des lieux d'exploitation?
Bon, dans les deux cas de figure, je prends d'abord la mine industrielle. L'État a laissé la patente qui est une taxe comme développement local. Donc cette taxe où les sociétés résident dans ces zones, elle est intégralement laissée au développement local, les 100%. C'est 60% pour la commune, 25% pour le cercle. Et 15% pour la région, c'est les aspects de décentralisation. Là, c'est l'exploitation industrielle. Dans le cadre de l'exploitation artisanale, l'État aussi a travaillé dans le cadre de la décentralisation pour à responsabiliser les collectivités, c'est-à-dire les communes, sur la gestion de l'exploitation artisanale. Mais c'est tellement complexe et ça pose tellement de problèmes que les communes elles-mêmes aussi n'arrivent pas à gérer cette problématique tant sur les aspects environnementaux que tant sur les aspects fiscaux.
Pour ce qui est des aspects environnementaux, parmi les gros problèmes de l'exploitation de l'or, il y a ces produits hautement nocifs à la fois pour les sols et pour les personnes qui travaillent.
Oui.
Je pense notamment au cyanure, par exemple. Mmh. Et ça, c'est un gros problème aussi donc, pour ceux qui travaillent dans les mines.
Oui, ça, c'est un très grand problème.
Le mercure surtout aussi.
Pour l'artisanat minier, au niveau local, ils utilisent le cyanure, ils utilisent le mercure et ils utilisent d'autres produits toxiques qui sont mélangés, dont on ne connaît même pas la source. Et ces produits sont utilisés dans des aspects de non-conformité à la réglementation et puis de non-protection de ces individus. Vous verrez dans ce site minier une femme qui est avec un enfant en train de laver la pierre, de laver les grains de sable pour tirer l'or avec du mercure qui est hautement nocif. Mais il n'y a aucune protection et la réglementation, normalement, interdit l'utilisation du mercure. Mais force est de reconnaître que l'État n'arrive pas à juguler ce fléau et que ces sites miniers s'approvisionnent en dehors même de l'État, parce qu'il n'y a pas un circuit de commercialisation, de vente, c'est le trafic. Quant à l'exploitation industrielle, c'est le cyanure qu'ils utilisent, mais ils essaient de mettre ça dans un grand périmètre qu'ils appellent bassin à boue, et selon eux, les rayons solaires à la longue vont faire disparaître les effets du cyanure. Mais vous avez l'infiltration, si
et
ces bassins de boue ne sont pas bien maîtrisés, et vous avez des fuites.
Et donc ça ressort dans les cultures des agriculteurs, des paysans
de la
zone. Et plusieurs ONG de défense des droits de l'homme, notamment la FIDH ou Human Rights Watch, ont dénoncé à plusieurs reprises le recours au travail des enfants dans les mines d'or. Est-ce que c'est encore d'actualité ?
C'est encore d'actualité parce que vous savez, dans ces zones minières, la pauvreté est tellement accrue que les enfants ne sont pas aussi scolarisés que ça. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas les enfants qui descendent dans les trous. Ils sont aux alentours pour le ramassage, pour le transport, pour le concassage des pierres. Et les familles se déplacent de site en site avec les découvertes. Donc, ce n'est plus l'école qui devient la priorité parce que les changements climatiques ont bouleversé le système agricole. Les terres ont été récupérées par les sociétés minières et que l'exploitation artisanale elle-même détruit toutes ces terres.
Et vous, en tant qu'ONG qui travaillez en contact direct avec les populations locales, qu'est-ce que vous dites à ces gens qui n'ont rien pour que les choses changent ? Parce qu'ils peuvent dire, oui, je sais que ce serait mieux que mon enfant aille à l'école, mais je n'ai pas les moyens.
Bon, ce que nous travaillons sur les différents tableaux, nous essayons d'aller vers la résolution des questions de subsistance avec certains partenaires en mettant en place avec leur aval soit des banques de céréales, soit des périmètres maraîchers pour que les femmes puissent se stabiliser autour de ces périmètres maraîchers, pour que les questions de subsistance, c'est-à-dire la nourriture, le mil, les céréales dont ils ont besoin puissent être là et qu'effectivement une dynamique se crée pour reconstituer les stocks et que les gens finissent avec toute cette pauvreté. Nous cherchons aussi des opportunités pour mettre en place les caisses d'épargne et de crédit. C'est-à-dire, dans ces communautés, l'argent existe, mais comment le mettre ensemble, comment mobiliser. Et aussi avec Irénée, dans ces zones, comme vous avez parlé des droits humains, il y a question de violence entre orpailleurs eux-mêmes, entre orpailleurs et sociétés minières, entre orpailleurs et communes. Donc nous essayons de mettre un système de gestion de ces ressources non violentes. Donc c'est tout ça qui permet de donner de nouvelles opportunités à ces populations. Avec l'État aussi, nous essayons d'engager des plaidoyers pour qu'il y ait des réformes afin que ces conditions puissent être faites parce que nous nous disons que ce sont des ressources non renouvelables et quand les mines vont partir, ça va être un problème. Avec les sociétés minières, nous demandons de mettre la mine à l'intérieur, de faire comme si la mine est pour les communautés. Donc, initier des programmes de développement, initier des activités pour que la mine ne soit pas un îlot.
Mais quel est l'intérêt d'une multinationale à vous suivre sur ce point-là ?
Il y a deux, trois intérêts. Le premier est que ces multinationales font tout pour qu'il n'y ait pas de problème, de révolution, de grands mouvements, parce qu'elles sont toutes cotées à la bourse. Un problème éclatant sur un site minier peut avoir des répercussions avec leurs partenaires financiers.
C'est ce qu'on a vu par exemple en Afrique du Sud.
Voilà, donc ça c'est un élément. Le deuxième élément, ces sociétés, la plupart du temps, dans le cadre de leur responsabilité sociétale, essayent de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de combattre cet élément parce qu'ils viennent dans une commune, dans un village, ils construisent soit un pont, une école, mais sans concertation avec les collectivités. Nous disons qu'il faut ramener ces financements au niveau des plans de développement locaux, comme ça la commune se l'approprie. Mais aussi, nous essayons d'être en interaction avec ces sociétés pour voir l'aspect global de développement communautaire.
Très bien, mais Monsieur Sangaré Initié, merci beaucoup.
Ok, merci.
Bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir.
Badema fila benyongo koni yalla
muna. C'est la fin de ce magazine. Merci à Sangaré Tiémoko Souleymane de la Fondation pour le développement au Sahel au Mali pour cet entretien. Pour nous écrire, une seule adresse, toujours la même, français@dw.com, sans la cédille à français. Salut et à la semaine prochaine. Mamu Kaita.